Bonjour Mgr Camiade.
Bonjour Thibault.
Avec vous pendant ce mois de mai, nous explorons la question des vocations. La semaine dernière, nous avons compris comment l'Église poussait le sujet des vocations. Aujourd'hui, nous allons nous incarner. Nous allons revêtir les lunettes d'un jeune ou d'une jeune femme qui se sent appelée, essayer de comprendre comment ça se passe. Et soyons très concrets, je vous propose de commencer avec vous, Mgr Camiade, si vous nous racontiez un peu votre propre vocation.
Si vous voulez, là, je tiens quand même à dire que chaque chemin est différent, donc mon itinéraire personnel n'est pas un modèle.
C'est votre histoire.
Même si la dernière fois que j'ai eu l'occasion de le raconter à des jeunes, c'était dans un séminaire, un séminaire de propédeutique. Il y a un des jeunes qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « mais ça s'est passé exactement pareil pour moi ». Enfin, c'était 1 sur 30. Hein. Donc voilà. Mais mon histoire personnelle, ce que je peux en dire brièvement, je suis né dans une famille catholique, pratiquante, dans laquelle la question de l'appel aux vocations faisait partie des choses dans l'ordre des choses, sans qu'on insiste plus que ça là-dessus. Sinon que j'avais un grand-oncle que je n'ai pas connu, qui est décédé juste avant que mes parents ne se marient, qui était prêtre, et pour lequel ma mère avait une grande vénération dont elle parlait très souvent. Ça faisait partie de ma famille de savoir qu'il pouvait y avoir des prêtres, et que c'était une belle vocation. Et sans doute très jeune, j'ai pas dit pourquoi pas moi, mais j'étais attiré un petit peu par cette vie de prêtre et voilà. C'est finalement à l'âge de l'adolescence, quand j'étais au lycée, comme à peu près, je pense, presque tous les garçons de mon âge, c'était surtout les filles qui m'intéressaient. Mais j'avais curieusement au fond de moi ce sentiment que il fallait pas que j'aille trop loin parce que peut-être le Seigneur m'appelait à être prêtre. Et je ne sais pas d'où venait ce sentiment, mais je me souviens quand même que lors de ma confirmation, un peu avant, je ne sais pas ce qu'on nous avait dit au cours de la messe de confirmation, mais j'ai dit au fond de mon cœur au Seigneur, si tu veux que je sois prêtre, je dirai oui. Mais après, il faut que l'ange Gabriel arrive. Et donc j'étais un peu dans cette disposition à l'adolescence, tout en ayant beaucoup d'autres sujets de préoccupation ou sujettes. Et finalement, je suis parti faire des études à Paris, en classe préparatoire. Et là, j'étais orienté vers la préparation des concours des grandes écoles d'ingénieurs. C'était aussi très accaparant. En même temps, tout de suite, j'ai eu la possibilité de participer, d'être à la messe tous les matins à 7h, avant de commencer ma journée, de partir en cours. Et ça a été mon bol d'oxygène pendant mes années de...
Il y avait déjà un choix,
classe
quand
prépa.
Même.
À vrai dire, si je relis cet épisode-là, je crois qu'au fond de moi, je me souviens assez nettement, m'être dit, de toute façon, il faudra que je sache quand même si je dois être ingénieur ou si je dois être prêtre. Et de toute façon, les prêtres célèbrent la messe tous les matins, parce que j'avais ce souvenir de mon curé à qui j'avais servi la messe en semaine certains jours, quand j'étais enfant. Et je verrais bien si je suis capable ou pas d'aller à la messe tous les matins. C'était un peu mon test, d'une certaine manière. Et effectivement, ça n'a pas posé de problème une fois le rythme pris. Et donc, mon chemin s'est fait comme ça. Et vous savez, quand on est en prépa, on travaille. Mais à la fin des concours, cette question qui m'occupait beaucoup, il y a eu une période, en fait, pendant la prépa, où la question de devenir prêtre devenait tellement obsédante que j'ai pratiquement arrêté de prier. Enfin, je continue d'aller à la messe le matin, mais le soir, je faisais plus ma prière personnelle. Et en fait, ça m'a manqué assez vite, jusqu'au moment où finalement, j'ai noté, j'avais un cahier où je notais des choses. J'ai noté, j'ai arrêté de prier parce que, mais cette question, il faut que je me la pose, il faut que je trouve la réponse, voilà. Et donc, après les concours, j'ai passé les oraux, etc., je suis rentré chez moi le 14 juillet, et je me souviens très bien, et je suis allé voir le 15, mon vieux curé de ma paroisse de campagne, pour lui dire, voilà ce qui se passe, je suis un peu préoccupé par cette question. Il m'a aidé à réfléchir, à prier, à discerner. Voilà, et puis au bout de quelques temps, il m'a fait rencontrer l'évêque du diocèse, Mgr Saint-Gaudens, qui était évêque d'Agen à ce moment-là, qui m'a dit, tu peux finir faire ton école d'ingénieur, puisque j'étais admis dans différentes écoles, et rentrer au séminaire après, ou bien rentrer tout de suite, et puis faire plus de philo et de théologie. Voilà, alors j'ai essayé de discerner, puis la parole de Dieu m'a éclairé, je suis tombé sur ce texte. Celui qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Alors bon, j'ai dit, si j'ai mis la main à la charrue maintenant, il faut aller en avant, et je suis entré au séminaire. Voilà, et puis ma vocation s'est confirmée peu à peu dans la formation, les années de formation.
Vous avez donc eu effectivement un moment ou un autre un moment de discernement. Vous aviez votre vieux prêtre, comme vous le dites. Tout le monde n'a pas l'abbé Huvelin ou un pilier de Notre-Dame comme ça qui vous tombe dessus. C'est parfois un long cheminement, c'est un discernement. Comment est-ce que ça s'accompagne, ça? Comment est-ce qu'on accompagne un jeune qui...
Je pense que on l'accompagne en l'aidant à devenir davantage, à s'attacher davantage au Christ, parce que le discernement se fait à la lumière du Christ, à la lumière de la parole de Dieu, comme je l'ai dit pour moi de manière très simple à travers ce petit verset de l'Évangile. Souvent c'est le moment de l'appel est un moment où le Seigneur insiste et où c'est très clair et très lumineux. Mais le fait de ne pas être seul pour percevoir ce moment et cette clarté est quand même assez important, assez vital, parce que voilà, l'accompagnement du jeune doit être un accompagnement où l'objectif de l'accompagnateur, comme tout accompagnement spirituel, est vraiment de chercher ensemble quelle est la direction à suivre. Quand on dit direction spirituelle, c'est pas pour diriger le jeune, mais c'est pour l'aider à trouver la direction spirituelle, la direction vers laquelle l'Esprit Saint le conduit. Et c'est cette écoute en profondeur du jeune, de ses aspirations, de ce qui le fait vibrer, justement des textes de la parole de Dieu, des lumières intérieures ou des expériences extérieures. J'aurais pu citer aussi dans mon histoire l'importance d'interpellations reçues au cours du pèlerinage à Lourdes, dans ce même été où j'étais en plein questionnement et où je comprenais pas trop pourquoi toutes les personnes qui étaient là me demandaient de lire l'intention de prière pour les vocations. Et je finis par sentir qu'il y avait quand même un regard des gens qui était, c'était une manière discrète de leur part de me dire pensez-y. Voilà. Et voilà, ce rôle de la communauté chrétienne autour est très important. Et c'est tout un tas de petits signes de ce genre auxquels il faut être attentif pour discerner. Et on a besoin, pour les voir, en fait, d'être accompagné. Parce que seul, bien sûr, on les voit, mais on les relie pas forcément entre eux. Puis le fait d'en parler, ça permet d'objectiver ces éléments-là et d'essayer de les situer un peu plus à leur place, sans grossir des petites choses, des signes qui seraient pas des vrais signes, et sans non plus s'éparpiller dans des considérations qui soient trop abstraites.
Alors, il y a le rôle de la communauté chrétienne. Là, on est encore un peu entre guillemets dehors. Et puis, à un moment, on fait le choix. Donc il y a la propédeutique pour le séminaire, où il y a aussi, quand on rentre dans un monastère, les premières années
postulat,
novicia, voilà. Là encore,
on est encore en discernement. Absolument. Oui.
Mais cette fois-ci, on est dedans.
On est dedans, et donc on a déjà fait une rupture avec le projet de vie qu'on pouvait avoir au plan humain. Mon projet, c'était d'être ingénieur, d'autres, ça peut être tout à fait autre chose, un métier. C'est très important, à mon avis, c'est aussi un critère important, de laisser quelque chose derrière soi quand on prend une décision de ce type. C'est-à-dire que l'entrée en formation ne soit pas un choix par défaut. C'est-à-dire que j'ai rien d'autre à faire parce que je sais pas de quoi faire. Ma vie n'a pas de sens. Donc pourquoi pas essayer d'être prêtre. Ça, c'est généralement, ça marche pas. Il peut y avoir des exceptions, mais habituellement, c'est pas bon. Et en fait, laisser quelque chose derrière soi, pour certaines personnes, c'est difficile. Je pense notamment à des adultes qui ont déjà une vie professionnelle, parfois un certain confort. Un jeune célibataire aujourd'hui, il n'a pas une vie malheureuse. Il peut s'enfermer dans un certain égoïsme aussi. Donc quitter son confort, sa jolie voiture qui coûte un peu cher parce qu'il ne pourra plus payer l'assurance, etc. C'est un choix qui n'est pas si facile quand quelqu'un est déjà engagé dans la vie professionnelle. Et un certain nombre l'ont fait et le font. Donc c'est d'autant plus beau. Même en dehors des questions strictement matérielles, le fait d'avoir un statut social, une place dans la société, de savoir qui on est, et de dire mais le Seigneur m'appelle à autre chose, et de vivre cette rupture est quelque chose d'assez important.
Effectivement, ouais. Les premiers temps sont une rupture. Tout d'un coup, on est, entre guillemets, enfermé.
Oh, faut pas exagérer non plus, c'est pas une prison. Mais il y a une vie qui accapare beaucoup, dans le sens que on se met quand même davantage à prier. Donc la vie communautaire, on partage ses repas un peu toujours avec les mêmes personnes. Ça veut pas dire que c'est absolument tous les jours, hein, et puis il y a des sorties, il y a des vacances, il y a des week-ends. Pas tous les week-ends sont pas forcément au séminaire, mais enfin il y a aussi ce besoin de rupture est réel quand même. Voilà. Dans un monastère, c'est plus strict, évidemment, en général, puisque la vie monastique est quand même davantage en rupture avec le monde, alors que la vocation sacerdotale, cette rupture n'est que pour un temps. Il faut revenir ensuite dans une autre relation avec le monde, mais une relation réelle.
Quand on parle des vocations, c'est en général pour donner un chiffre qui est plutôt décroissant. Le pape François a récemment ouvert la porte à l'idée d'ordonner, peut-être un jour, les viri probati, c'est-à-dire les hommes mariés n'ayant plus d'enfants à charge, pour faire court. Monseigneur Cabiade, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette idée qui n'est peut-être pas si nouvelle que ça ?
Alors, sur les chiffres décroissants des vocations...
En France,
ça,
en tout cas.
Oui, c'est ça. Mais quand le pape François parle, il ne parle pas pour la France. Mais c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider d'ordonner des hommes mariés, viri probati, des hommes qui éprouvés, selon une formule qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Ça peut pas être le motif de la crise ou de la pénurie qui va amener cette réflexion-là. De toute façon, on voit bien qu'on a autant de difficultés à trouver des diacres permanents, qui sont pourtant des hommes mariés en principe, enfin pour la plupart d'entre eux en tout cas, que de trouver des prêtres. Et parmi les diacres permanents, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui accepteraient de devenir prêtres. Donc c'est une belle idée, mais qui n'est pas forcément si facile à réaliser dans le contexte français non plus. Et qui ne résoudrait pas globalement les difficultés au niveau du nombre de prêtres. En même temps, la question mérite d'être posée, puisque dans la tradition de l'Église, ça existe, ça a existé. Et je pense que c'est dans cet esprit que le pape François la pose à l'Église.
Merci Mgr Camien de nous avoir accompagnés aujourd'hui. La semaine prochaine, nous prendrons le temps de parcourir la réalité de votre diocèse de Cahors.